Radio Okapi.
Le journal Pascal Masika.
Les titres du journal, signature cet après-midi au palais du peuple à Kinshasa, de l'arrangement particulier de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous parlerons de ceux qui étaient présents à cette cérémonie et ceux qui étaient absents. 29 civils morts, bilan des affrontements d'hier mercredi entre des miliciens Nyatura et ceux du Conseil national pour le renouveau et la démocratie dans les localités proches de Mueso à Masisi. Conséquences immédiates, les habitants ont fui la zone selon la police. Dans ce journal, il y aura également l'actualité de l'étranger, le sport, le dossier et l'invité. L'invité de Radio Okapi ce jeudi soir, c'est le représentant intérimaire du Fonds des Nations Unies pour la protection de l'enfance, UNICEF. Madame, messieurs, bonsoir et merci de nous faire confiance. Signature ce jeudi après-midi au palais du peuple à Kinshasa de l'arrangement particulier de l'accord de la Saint-Sylvestre. Et parmi les grands absents à cette cérémonie, on a noté le rassemblement présidé par Félix Tshisekedi Tshilombo, le MLC et la CENCO, la majorité présidentielle, l'opposition et la société civile participante au dialogue de la Cité de l'Union africaine sont parmi ceux qui ont apposé leur signature au bas de ce document. C'est ce que nous explique Michel Kifinangoy qui a ouvert cette cérémonie pour Radio Okapi.
À l'exception du rassemblement conduit par Félix Tshisekedi du Front pour la République de F. Bazaïba et de la société civile non signataire de l'accord du 18 octobre, tous les délégués des partis politiques au dialogue sous l'égide de la CENCO ont signé l'arrangement particulier. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de congrès du Palais du Peuple, devant députés, sénateurs, membres du gouvernement et autres autorités judiciaires, sécuritaires et diplomatiques. Le contenu de ce document n'a pas beaucoup changé par rapport à celui élaboré au niveau de la CENCO. Seuls les deux points de divergence ont fait l'objet des discussions au cours de la plénière qui a précédé la signature de ce document. À en croire le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, il s'est agi simplement de trouver le consensus sur les 2% des 98 autres déjà trouvés par les évêques, conformément à la recommandation du président de la République. D'après le contenu de cet arrangement particulier lu par Jean-Lucien Boussa, la primature revient bel et bien au rassemblement et le Premier ministre étant déjà nommé conformément à l'accord du 31 décembre. Depuis le Palais du Peuple, Michel Kifindangoy, Radio Okapi.
En réaction, le secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle pense que le choix du Parlement pour la signature de cet arrangement particulier dépend du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Pour Joseph Kogunyangi, l'essentiel, c'est la marche vers les élections. Il s'est confié à Jacques-Yves Molima.
Le président de la République est résolument engagé pour amener le peuple congolais aux élections. J'ai suivi ce matin la réaction de Mukubwa Christophe Lutundula, que je respecte bien. Je n'ai pas reconnu Lutundula. Il renie même au président de la République le pouvoir de désigner les deux présidents de chambre pour présider la cérémonie de la signature de l'arrangement particulier. Ça, c'est une catastrophe. Mais quand le président de la République a choisi la CENCO, où est-ce que dans la Constitution on écrit CENCO? Ça n'existe pas. Tout dépend du pouvoir du président de la République. Aujourd'hui, il demande l'audience au président de la République. Mais quand le président les a appelés au palais de la nation, ils ont refusé.
Alors, ils ne seront pas à la signature. Que va valoir ce texte-là?
C'est un petit groupe qui est en perte de vitesse parce que vous avez suivi tous les rassemblements, les vrais rassemblements, les rassemblements nationalistes. Va être là.
Pour sa part, la société civile conduite par Georges Kapiamba a rejeté en bloc cette initiative. Cette composante affirme que seule la CENCO peut convoquer les parties prenantes à la signature de l'arrangement particulier. Il est joint par Dona Madimba.
Nous ne serons pas là, nous ne pouvons pas y aller parce que, nous, comme je viens de le mentionner, la partie majorité présidentielle qui a organisé cette cérémonie n'a aucune qualité pour le faire. Nous attendons que soit les Nations Unies ou la CENCO nous envoient l'invitation et à ce moment-là, nous pourrons répondre. La bonne procédure, c'est de rentrer auprès de la CENCO, demander à la CENCO d'inviter toutes les parties prenantes à une rencontre qui devra nous permettre d'adopter formellement l'arrangement particulier que nous avions déjà presque discuter et c'est la CENCO qui devra présider même à la cérémonie de sa signature en présence des invités qu'elle pourra elle-même juger utile d'être appelée à la dite cérémonie.
De son côté, Valentin Moubaké dit qu'il ne peut pas aller signer un texte dont il ne connaît pas le contenu. Il réagissait ainsi à la déclaration de Christophe Lutundula ce matin qui a cité son nom comme étant parmi les personnes qui pourraient probablement signer l'arrangement particulier aujourd'hui. Valentin Moubaké, joint par Guy Maté.
Nous pensons que nous convoquer ce jour au Palais du Peuple pour signer un document pour lequel nous avons mis des semaines et des semaines à la CENCO sans pouvoir nous mettre d'accord. Ce serait aller trop vite en besogne. Nous pensions que l'invitation devait consister uniquement en la finalisation de l'arrangement particulier pour lequel, je rappelle, il y a 3 points de divergence, à savoir la présentation et la nomination du Premier ministre, la présidence du Conseil national du suivi de l'accord et du processus électoral, et enfin le chronogramme qui va baliser le chemin qui va nous séparer de la signature de l'arrangement particulier, donc de l'accord global, jusqu'aux élections prévues pour cette année. Et donc, après avoir finalisé l'arrangement particulier, cette signature pourrait intervenir. C'est ça la procédure normale. Si je dois signer, je dois signer un document dont je connais le contenu.
La suite du journal sur Radio Okapi. 29 tués, bilan des affrontements survenus mercredi entre des miliciens Nyatura et ceux du Conseil national pour le renouveau et la démocratie, une branche dissidente des FDLR. C'était dans les localités de Kivuye, Luhanga et Bweru, près de Mweso, groupement de Bachalimukoto, en territoire de Masisi. Selon la police nationale, les habitants auraient fui la zone. Le récit de Gisèle Cage.
À Kivuye, les affrontements auraient commencé mercredi à 5 heures du matin. Les combattants du Conseil national pour le renouveau et la démocratie, CNRD, dirigé par le colonel Antoine Jeva, seraient venus attaquer les Nyatura d'un certain colonel Kasongo. Mais les combats se seraient déroulés dans cette zone habitée. Le bilan est lourd. Selon la police, 26 civils tués, certains par balles au moment où ils tentaient de se sauver et d'autres brûlés dans leur maison, indiquent ces sources policières. Après l'attaque de Kivuye, les combattants CNRD se serait dirigé à Bweru. Après quelques heures d'affrontement avec les Nyatura, ce dernier décroche. 3 autres civils sont tués sur place. Ces informations sont corroborées par l'administrateur du territoire de Masisi, Dieudonné Chichiku. Toute la population de Kivuye et de Bweru aurait fui dans la forêt. De même que les policiers de sous-commissariat de 2 villages se seraient repliés. Les groupements de Bachalimokoto, dont le Masisi, est presque entièrement occupé par des groupes armés depuis plusieurs années maintenant. L'armée est déployée uniquement sur l'axe Kichanga-Pinga, long de 68 km. Goma, Gisèle Cage, Radio Capi.
Et puis, 15 personnes sont mortes dans un accident survenu mercredi soir sur la route Louboudi-Fungurume. Le camion était chargé des bidons d'huile et d'une 30aine de passagers. L'administrateur du territoire ad intérim du territoire de Louboudi affirme que cet accident est causé par le mauvais état de la route et la surcharge. C'est ce que nous raconte Karine Toperidassi.
L'accident s'est produit à 40 km de Mukabe-Kasari à Louboudi. Selon le chef du bureau du territoire, le camion accidenté provenait de la province du Kasai central et se rendait à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Il s'est renversé alors qu'il tentait de traverser la route à l'endroit où se trouve un grand bourbier. Une 30aine de personnes, dont une 10aine d'enfants, étaient perchés au-dessus du camion. Selon des témoins, le camion a glissé, laissant d'abord tomber les passagers, ensuite la marchandise. Les passagers se sont retrouvés coincés sous les bidons d'huile jusqu'à ce que mort s'en suive. Sur place, 15 personnes sont décédées, dont 10 enfants. Le gouvernement provincial du Lualaba a dépêché sur place 4 membres de son gouvernement, conduits par le ministre de l'Intérieur. Ils ont organisé l'évacuation des blessés graves à Fungurume, à 200 km de Louboudi, pour une prise en charge médicale. Les corps sont gardés à la morgue de Fungurume en attendant l'inhumation qui interviendra dans les 10 prochains jours, en attendant l'identification des victimes par leurs membres de famille. Lubumbashi, Karine Topé, Radio Okapi.
Autre région, autre drame. En Ituri, 3 morts et plus de 10 cases incendiées, bilan d'un accident survenu mercredi au village d'Alassi, secteur de Walendupitsi, en territoire de Djougou. Ce drame fait suite à la découverte du cadavre d'un chef coutumier de cette entité. À Bounia, une correspondance de Jean-Claude Lokidile.
Selon l'administrateur du territoire, ce chef coutumier s'était rendu au village de Imbu où il aurait trouvé la mort pour ses affaires privées. C'est après 3 jours que ses proches ont finalement retrouvé son corps, une situation qui a suscité la colère des habitants du village Alassi, d'où est originaire ce chef coutumier, Idriss Komakokodila.
Il est allé se divertir du côté du village d'Imbu. C'était un village voisin du sien. Mais depuis lors, il n'est plus rentré. Sa famille ainsi que la population étaient à sa recherche. On a découvert son corps dans le village d'Imbu. Sa famille ainsi que les autres sympathisants sont allés pour récupérer le corps. S'en ont suivi donc les désordres. Il y a 15 maisons qui ont été incendiées. Il y a une personne brûlée vive. Deux autres abattus à coups de machette. Même jusqu'à présent, le chef du village d'Imbu n'est pas encore retrouvé.
Des sources sur place signalent des mouvements de population vers le territoire voisin de Mahagi. Ces personnes fouillent des éventuelles représailles de camps, souligne un acteur de la société civile jouant sur place à Mahagi. Plusieurs voix s'élèvent pour demander aux autorités compétentes de gérer cette affaire avec diligence, cela en vue d'éviter des conflits interethniques que l'Ituri a connus. L'administrateur du territoire de Ndjougou indique que des éléments de la police ont été dépêchés sur place en vue de sécuriser le lieu. Bounia Jean-Claude Lokidile, Radio Okapi.
L'actualité, c'est aussi l'ouverture ce jeudi à l'hôtel Memling de Kinshasa de la 57e convention du Lions Club District 409. Ce district comprend le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Pendant 3 jours en effet, les membres de cette association philanthropique vont évaluer ensemble les actions et les réalisations menées l'année dernière et essayer de mobiliser et sensibiliser les donateurs pour assister les plus démunis de la communauté. Des précisions avec le gouverneur sortant du Lens Club, Faustin Kabeya, au micro d'Innocent Olenga.
Au cours de notre convention, nous allons bien sûr procéder à l'évaluation de nos œuvres, de la gestion de nos clubs et voir combien de nouveaux lions nous avons recrutés, combien de démunis dans notre communauté nous avons servi et nous allons organiser une soirée pour susciter le plus possible des donateurs, possible de nous donner des fonds pour les pauvres. Nos actions et réalisations sont en principe dans la périphérie de la ville. À Kimbaseke, il y a les enfants malnutris, on s'en occupe. L'Institut des aveugles de la Gombe, le centre ophtalmologique de Massina, et nous avons le centre ophtalmologique de Manueka. Et à Manueka aussi, on s'occupe des enfants malnutris et des enfants handicapés du centre Bondeko Sembola à Matete. Et on s'occupe aussi du homme de vieillard de Saint-Pierre. Autant de clubs, autant d'œuvres, parce qu'il n'y a pas de club Lyon sans œuvre. Nous nous avons dit, nous voulons nous occuper des plus démunis de notre communauté.
Actualité Afrique Monde.
Venons-en maintenant à l'actualité de l'étranger. L'ex-président tchadien Hissène Habré a définitivement été condamné ce jeudi à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Le verdict a été rendu donc aujourd'hui à l'issue d'un procès en appel devant le tribunal spécial africain siégeant à Dakar. Ce jugement confirme celui qui avait été rendu en première instance en mai 2016 par les chambres africaines extraordinaires qui ont été créées en vertu d'un accord entre l'Union africaine et le Sénégal où Hissène Habré s'est réfugié après avoir été renversé en décembre 1990 par l'actuel président Idriss Déby Itno. Pour mémoire, la répression du régime d'Hissène Habré au Tchad de 1982 à 1990 a coûté la vie à 40 000 personnes selon une commission d'enquête tchadienne. Au Kenya, l'ex-premier ministre Raila Odinga, désigné ce jeudi candidat de la coalition de l'opposition pour l'élection présidentielle qui sera organisée au pays le 8 août prochain, va affronter à l'occasion le chef de l'État sortant Uhuru Kenyatta. Lors d'un rassemblement géant réunissant plusieurs dizaines de milliers de personnes au centre de la ville de Nairobi, l'opposition kenyane baptisée a mis fin à plusieurs mois de suspense et d'intenses tractations en annonçant son ticket présidentiel. Raila Odinga, âgé de 72 ans et vétéran de la scène politique kenyane, 3 fois candidat malheureux à la présidentielle, conduira ainsi l'opposition à la bataille de la présidentielle avec Kalonzo Musyoka, candidat au poste de vice-président, une fonction qu'il occupait déjà dans un gouvernement du non-national entre 2008 et 2013. Enfin, sachez qu'un navire espion de l'armée russe a coulé ce jeudi après-midi au large de la Turquie en mer Noire après avoir percuté un bateau de transport de bétail, mais son équipage a pu être secouru. Le vaisseau russe baptisé Liman et le navire de transport de bétail dénommé Yuzarfis, battant pavillon togolais, se sont percutés à l'entrée du détroit de Bosphore pour des raisons vraisemblablement accidentelles dans une zone enveloppée d'un épais brouillard. Selon le ministre turc des Transports et Communications, l'ensemble des 78 membres d'équipage du Liman ont été secourus par les gardes-côtes turcs avec l'aide du navire de bétail.